Tu crois ?
Oui, on reprend tout de suite. Donc, avec une session qui va nous faire quitter le monde des jeunes enfants, même pas mal, on va partir vraiment du côté du corps de l'adulte, en commençant par le corps absent, avec Pierre Brûlé, qu'on ne présente plus. Donc, vous avez reçu un exemplier avec trou. Donc, comme on vous a dit, vous mettez votre nom et c'est rempli. Voilà.
C'est vrai, ça.
Bonjour, merci. Alors, je me sers pas des trucs, là. J'aime pas ça. Comme ça, vous partez à la maison avec les textes. Hein. C'est pour ça que c'est pas sur l'écran. Par ailleurs, je suis un peu hors sujet. Vous allez voir. Pas beaucoup de corps imagés là-dedans, ni d'images du corps. Il n'y a aucune, même. Si, il y en a une à la page 2, là, pour moi, et à la page 1 pour vous. Et par ailleurs, je dois avouer à mon corps défendant, et merci pour les organisateurs, les organisatrices, j'ai oublié, que finalement, je ne suis pas sûr que ce soit un vrai sujet. J'ai changé le titre, comme beaucoup ont fait depuis ce matin, alors pas de scrupules. Ça s'appelle « Le corps absent entre gage amoureux et idée de relique », où je pourrais écrire « Entre idée de relique et gage amoureux », ça ne changerait pas le contenu de ce qui va suivre. Je suis en train d'écrire un livre sur les poils. Bon, ça fait déjà un moment que ça dure. Sur la pilosité. Et j'ai rencontré des phénomènes assez faciles à catégoriser, du genre la chevelure qu'on coupe au moment d'un deuil. C'est même sans doute la pratique la plus fréquente qui concerne la pilosité. Capillaire en cette occurrence. Et puis par ailleurs, de temps en temps, j'ai rencontré des cas où on se coupait une mèche, une boucle, ou bien une partie des poils, qu'ils soient situés n'importe où, dans des occasions qui n'étaient pas celles de la tristesse, je vais y venir, mais dans des occasions assez similaires et qui m'ont fait penser que, par exemple, comme tous les amoureux du monde, on échangeait il y a très longtemps, mon Dieu, personne ne s'en souvient, qui la mèche de l'aimé, qui la mèche de l'amant, etc., et que l'on gardait précieusement, ou qu'on jetait à la poubelle. Pour la femme numéro 3, par exemple. Ou l'homme numéro 4. C'est pareil. Vous en verrez des exemples tout à l'heure avec Fellini qui sont tout à fait intéressants. Justement, je termine ma petite présentation par ceci. Vous verrez que la présence de sources non grecques et non antiques est assez importante dans l'exemplier que je vous ai remis, parce que précisément, un peu comme dans Tout le monde s'en est plaint depuis ce matin, on n'a souvent pas de texte pour dire qu'en réalité, on trouve quand même, mais pour lequel on n'a pas l'expression des raisons psychologiques pour lesquelles on a coupé ses cheveux, ni la raison, encore moins les raisons pour lesquelles on les a reçus. Je termine par un point, je dirais, notionnel, d'érudition, si vous voulez. J'ai dit tout à l'heure, et j'avais pas tort, que la pratique la plus fréquente de l'ablation, j'emploierai oblation dans d'autres cas, la pratique la plus fréquente de l'ablation de la chevelure, c'est lors d'un deuil, lors du décès d'un proche, mais qu'en second se trouve, et peut-être luttant d'assez près avec cela, l'oblation des cheveux pratiquée soit par les garçons pubères, ou plutôt par les garçons devenant pubères, soit par les filles lors de leur mariage, c'est sans doute ce cas-là qui est assez près du premier en fréquence, puisqu'on a on a la cité tout entière, les garçons, toute une classe d'âge se coupaient les cheveux dans certaines cités au moment de leur puberté. Voilà. Alors, pourquoi je me suis intéressé aux rites qui sont des rites autour de ces deux pratiques, c'est parce que je cherche depuis le début, pour la première comme pour la seconde des occasions, c'est-à-dire pour le deuil aussi bien que la puberté-mariage, Je cherchais ce qu'on pourrait appeler des réactions psychologiques à cette transformation de l'apparence, qu'est l'ablation d'une chevelure ou d'une partie d'une chevelure, ou bien d'autres parties de la pilosité. Vous verrez qu'il y en a. Bien. Donc, c'est sur ces pratiques un peu de marge par rapport à ces deux grands phénomènes que je vais porter mon attention. Pour cela, comme d'habitude, j'aime pas beaucoup pérorer philosophie ou grands mots, mais j'adore les textes. Et c'est pour ça qu'on va faire, le parcours à l'aide des textes que je vous ai donnés. Et on va commencer par un premier exemple qui me semble assez, significatif de ce que je veux vous montrer cet après-midi. Nous sommes avec Euripide en Tauride, où Iphigénie a été miraculeusement enlevée par Artémis au moment où son père allait la sacrifier à Aulis. À sa recherche, son frère Oreste arrive aussi en Tauride, à la suite de péripéties romanesques, mais ça, du roman, on en verra d'autres. Il la retrouve, mais elle ne le reconnaît pas. Quand elle a été séparée de lui, il était encore un bébé et elle était déjà une grande fille à marier puisqu'elle devait épouser Achille. Vous connaissez le chantage. C'est pour ça qu'elle vient de Mycène, parce qu'elle accepte d'épouser Achille. Ce n'était pas vrai. Lui, quand il arrive en Tauride, il sait qu'il s'agit d'elle, mais elle ne le reconnaît pas. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre quand on va lire la petite conversation. Alors, il lui fournit des séméias, c'est-à-dire des témoignages, si vous voulez, des traces qu'elle devrait reconnaître. Il cherche à rameuter ses souvenirs pour qu'elle l'identifie. Et il lui fournit donc ses séméias, des signes de reconnaissance. Il lui parle des tapisseries qu'elle a tissées. Et il fait allusion au bain nuptial que sa mère, voulant tromper sa fille, faisant croire que c'est un mariage, qu'elle avait reçu de sa mère. Puis, ils échangent tous les deux sur les derniers moments, ce qui aurait dû être théoriquement les derniers moments, de la vie d'Iphigénie. Et Oreste lui dit, « Et tu fis porter tes cheveux à ta mère, tu fis porter tes cheveux à ta mère. » Et Iphigénie répond, « Pour mon tombeau, à défaut de mon corps, vous verrez que c'est cette expression-là sur laquelle je m'appuie beaucoup, en mémoire de moi, alors c'est Mnéméia, c'est des Mnéméia, antisomatos. C'est cette préposition anti, là, qu'on peut traduire de plusieurs façons, mais qu'on va souvent rencontrer, les cheveux à la place d'eux, pour être comme si c'était mon corps, et pour son tombeau. Alors pourquoi des cheveux dans une circonstance comme ça, où il ne s'agit pas d'un deuil, ou alors il faudrait qu'elle ait anticipé elle-même sur sa mort, alors qu'elle ne sait pas précisément au moment où est censé se passer cet événement, qu'elle pourrait mourir. C'est donc pas ça. Pourquoi les cheveux? D'abord, j'y reviendrai plusieurs fois. Mieux que d'autres objets putrescibles en particulier. Pourquoi le cheveu? Parce que précisément, ce sont des restes humains, mais qui ne sont pas soumis à décomposition. Ces cheveux peuvent témoigner d'un corps passé, puisqu'on imagine qu'elle le mettrait sur son tombeau. Et ils participent, ces cheveux, du souvenir du corps entier d'Iphigénie. Et on verra que c'est toujours comme ça qu'il faut le comprendre. Alors, de ce geste-là, on possède des témoignages iconographiques, mais qui ne m'intéressent pas spécialement du tout, en l'occurrence, parce que lorsqu'on voit sur la coupe, là, c'est une péliquée. Quand on voit sur cette péliquée, au tombeau d'Agamemnon, vous voyez, le nom d'Agamemnon est inscrit en dessous, sous le tombeau, là. On voit Oreste à gauche se coupant cette mèche. Alors, c'est souvent bostrikos, c'est le terme le plus fréquent. Il y a d'autres termes qu'on peut employer à ce moment-là. Et vous voyez tout à fait sur la gauche une figure très partielle, malheureusement. C'est Iphigénie, justement. C'est Électre qui se trouve là, qui assiste au sacrifice par Oreste de sa chevelure au tombeau de son père. Alors, la signification des deux gestèmes, le gestème dont parle Iphigénie dans la conversation avec Oreste tout à l'heure. Et celui d'Oreste que l'on voit sur cette peinture n'est pas la même. Ça ne veut pas dire la même chose du tout. L'offrande d'Oreste témoigne de la dévotion au père mort. C'est le geste habituel, commun, général, on va dire, dans toute l'histoire de la Grèce. Tandis que la coupe des cheveux d'Iphigénie est chargée par Euripide. Hein, c'est pour moi qui le dis, c'est Euripide qui parle ici d'une valeur de représentation. C'est à la place de moi, hein, elle représentera, cette mèche de cheveux d'Iphigénie, le corps d'Iphigénie tout entier. Donner à cette chevelure un statut anti-somatos, à la place d'eux, à défaut d'eux, parfois il dit anti-tout-sous-somatos. Euripide, on retrouve en particulier dans l'Andromaque, cette façon de parler. Cela signifie qu'Iphigénie souhaite qu'elle serve, cette mèche de cheveux, de support à la pensée de ses proches, qu'elle constitue comme un soutien à leur remémoration d'elle-même. Quant au geste d'Oreste sur la tombe d'Agamemnon, Gernet prétend que c'est pour qu'il soit reconnu comme héritier. Je ne vois pas du tout pourquoi il dit ça. Certes non, moi, à mon avis, puisqu'Électre fait pareil. Et Hélène donne aussi ses cheveux à Hermione pour honorer Clytemnestre dans une autre pièce d'Euripide. Ce thème du cheveu comme substitut d'un corps absent n'est pas fréquent. Je dois le dire que je me suis battu les flancs pas mal. Battu les flancs comme ça. Il se retrouve quand même, ça et là, et bizarrement, assez facilement dans la littérature latine. Bizarrement, pourquoi je dis ça? Ce recours au truchement d'un don capillaire pour rappeler un corps est clair chez Stas, par exemple. On parlait de Dryas, je ne sais plus, on a vu, je sais plus qui, hein, tout à l'heure, une image de Dryas. Là. Dryas mourant donne à sa mère une natte à la place de son corps, texte 3, du moins à la place de ce corps pro-corpore crinem, on ne peut pas dire mieux que par rapport à antisomatos, hein, que tu ne reverras plus, ô ma mère, reçois ma chevelure, et il l'offre de lui-même au ciseau, cette chevelure que tu ne te plaisais à peigner, alors que je dédaignais ce soir, ça n'a aucune importance ce passage-là. On trouve aussi ça chez Sénèque, quand il adapte les Troyennes d'Euripide, il fait dire à Andromaque, reçois, cher enfant, ces baisers, ces pleurs, ces cheveux que je m'arrache, et plein de moi, Plenus Mei, tu vas te présenter à ton père, prends ces cheveux et ces larmes, reçois ces derniers baisers pour les rendre à ton père. On a la même idée ici, hein, évidemment, et les mêmes expressions, ou quasiment. On va retrouver ça, retournons chez les Grecs, avec Médée. Lorsque Médée réalise que son père a été mis au courant de l'appui qu'elle a fourni à Jason, Médée est prise de panique. Elle sait qu'elle doit s'enfuir du palais pour rejoindre les Argonautes, mais avant de décamper en courant, elle arrache, dans texte 5, elle arrache de ses mains. Bon, là, elle est forte, hein, Médée. Hein. Mais en plus, non, mais c'est très fréquent, ce verbe arracher, hein, dans ces scènes-là. On imagine quelque chose de très violent. Elle arrache de ses mains une longue boucle de ses cheveux qu'elle laisse dans sa chambre. C'est le thalamos. Hein. Et c'est encore l'emnemeia. C'est toujours. Ce terme revient, vous allez voir, constamment, le souvenir de soi. Pour sa mère, souvenir de sa virginité. C'est le seul cas que j'ai de l'idée que chez une femme comme celle-ci, parce qu'elle est femme, hein, elle n'est plus Parthénos, et on laisse ainsi ses cheveux en souvenir d'une virginité passée. Puis, élevant la voix, elle s'adresse à elle. Elle s'adresse à elle, c'est ça. Je te laisse, il parle à ses cheveux. Je te laisse en partant cette longue... Non, à elle, pardon, sa mère. Excusez-moi. Je te laisse en partant cette longue mèche de cheveux pour me remplacer. Encore la même... Il y a une insistance sur cette idée-là. Ou mieux, je préférerais traduire autrement, moi, te laissant au lieu de moi, ant emethen, dit-elle, qui est plutôt, à mon avis, à traduire comme ça, cette longue mèche de cheveux. Tout ça, c'est argonautique, livre 4. Ô esprit acéré, auditeur sagace, il est temps de s'arrêter. Sur cette expression, dans la justification attribuée aux auteurs du gestem, vous n'avez pas été sans remarquer la fréquence de la construction avec la préposition anti ou pro pour les latins, utilisée dans le sens de au lieu de, à la place de, en échange de, voire même parfois en contrepartie de, qui nous introduit dans une sorte de commerce entre le remémorant et celui qui veut être remémoré. C'est-à-dire que ça ne va pas forcément toujours que dans un seul sens, je te donne ses cheveux, je dépose ses cheveux pour que, etc. Mais où on prête aussi à celui qui reçoit, et ça peut être le dieu dans le fond, dans les circonstances où c'est des dépôts votifs, ça peut être aussi le dieu dont on attend quelque chose, une réponse à un souhait, une réponse à une demande, un vœu, n'importe quoi. Bien sûr, équivalence n'est pas identité. La chevelure n'est pas équivalente au corps. Je suis pas idiot quand même. Mais elle le remplace avec assez de vérité pour servir de tremplin à l'imagination des cœurs aimants. Le statut des cheveux coupés est unanimement celui d'un mnéméon. Ça, il est partout pareil. C'est explicite dans le 1 et le 5. C'est implicite dans les 3 et 4. Je vous laisse pas vérifier. Outre le caractère de truchement pour l'imagination de sa mère, afin qu'elle se rappelle le temps de sa parthénia, ce dépôt en souvenir de la boucle de Médée exprime qu'un peu d'elle est encore là et sert d'appui à la remémoration du corps de Médée absente. Un étudiant, enfin, ce n'est pas un étudiant à moi, mais c'est un étudiant qui fait partie de son jury, donc il est un petit peu le mien, écrivait à ce propos, il s'agit de M. Lavergne, un aixois, « La chevelure résume l'individu ». Et là, à chaque fois, c'est tout à fait vrai. Je reviens au deuil, après avoir vu ces textes. Le rite de dépôt de la chevelure au tombeau de l'être cher ne pourrait-il, lui aussi, être compris comme la volonté de laisser au défunt un morceau de son propre corps? En tout cas, chez Homère, il y a trace de ça. Ce serait l'idée d'accompagner le défunt dans l'Hadès avec une réalité matérielle, très matérielle, qui n'a pas perdu tout caractère du vivant. Après que la dépouille de Patrocle avait été recouverte de chevelure, c'est comme ça que c'est décrit, d'abord il est recouvert, les myrmidons se coupent tous les tifs et déposent les scalpes sur le corps de Patrocle, et Achille prit soin de placer la sienne entre les mains de son ami. Et Homère, l'aide écrit, pour qu'elle parte avec lui, il y a de 2351, dans cette façon de dire le rite, Homère semble considérer la mèche du héros comme un mnéméon. Achille parlant ajoute, puisque je ne dois plus revoir les rives de ma patrie, eh bien, c'est au héros Patrocle que je veux offrir ici ma chevelure à emporter Férestaille. Dans les quatre exemples, l'idée de la pieuse conservation de la chevelure par le destinataire n'est jamais dite, mais elle est implicite. Il est évident que le destinataire, on sait qu'il va faire gaffe à ça, quoi. On reviendra sur cet aspect tout à l'heure. Ce rôle de trace mémorielle joué par une chevelure remise en dépôt se retrouve, je crois, je dis parce que je l'ai trouvé nulle part, dans un passage des Sept contre Thèbes. Je crois que c'est à cette fonction potentielle que pense Échille lorsqu'il fait dire au messager. Ça y est pas. Je crois que je ne l'ai pas mis celui-là. Parce qu'il s'agit de toute une série de scolies. Donc, Échille, lorsqu'il fait dire au messager qui doit aller annoncer la nouvelle, évidemment, que l'épreux capitaine, après avoir sacrifié un taureau sur un bouclier noir, et s'être promis de saccager la ville, ont ensuite, de leurs propres mains, suspendu au char d'Adraste, Demnéméa, c'est son mot, pour les parents restés au foyer, c'est Argos. Donc ils sont à Thèbes et ils envoient donc. Il se trouve que c'est le cheval Argos qui est, Arion, pardonnez-moi, qui est attelé à ce char, et on sait que c'est un cheval divin et il ira forcément tout seul Argos, en portant le char avec l'Emnemnéia accroché aux roues. Mais ce n'est pas là que se trouve l'essentiel de l'intérêt du texte pour moi, ou de l'épisode en tout cas. Il est dans les commentaires des scoliastes, des différents manuscrits que j'ai utilisés pour ajouter ce que je vais vous dire maintenant. Avec eux, je doute peu que ces Mnéméia soient utilisés comme des Séméia, devant être reconnus par ce qui est plus loin, on appelle les oikeioi, qui sont restés à Argos. et qu'ils étaient constitués, en partie au moins, de boucles coupées. Et les scoliastes citent Tricas, Bostrucus, dans ce contexte, deux fois d'ailleurs. Et ils ajoutent aussi d'autres objets qui sont faits pour parler à la place des absents, qui sont des agrafes, des bandelettes et autres choses comme ça. Ces chevelures, ou ces aparcailles de chevelures en tout cas, parleront aux parents restés au foyer, c'est les oikeioi de tout à l'heure, c'est ce que comprennent, je crois, les spectateurs de la scène d'Eschyle. Je crois que pour eux, les mnéméias font pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de difficultés pour les identifier à des boucles de cheveux ou à des chevelures entières. Et, signe de reconnaissance, les destinataires vont aisément transformer ces mnéméias en reliques, en témoignage des absents qui sont morts sous Thèbes. On retrouve trace de cette pratique ailleurs qu'au théâtre et dans le mythe quand même, par un morceau des Éphésiaques de Xénophon d'Éphèse. Vous voyez que je fais feu de tout bois, parce qu'il n'y a pas de cohérence chronologique entre mes sources, parce que, évidemment, je fais ce que je trouve. Alors ça, j'aime bien. Je vais vous dire que s'il n'y avait pas ça, ce ne serait pas intéressant. Vous ne connaissez peut-être pas les Éphésiaques de Xénophon d'Éphèse. C'est un roman de gare avant les trains, mais c'est un roman de gare quand même. C'est les amours, évidemment, contrariés. Si ce n'est pas contrarié, ça n'a pas d'intérêt. D'Abrocomès. Abrocomès. Vous ne me direz pas qu'il a un nom tout à fait convenable. Comès les cheveux, comaille, oui, Abros délicat. Doux, enfin bon, comme vous voudrez. Donc c'est un garçon qui a les cheveux très jolis. Antia, Antia, elle s'appelle Antia la fille. C'est banal. Alors Antia est au désespoir parce qu'elle est séparée de son chéri depuis trop longtemps. Et après 100 péripéties, elle se trouve à Rhodes lors de la fête des Aliéia. Hélios est le dieu principal de Rhodes, et c'est la grande fête, c'est les Aliéia. En compagnie de son ami Hippotoos. Je n'ai pas trouvé de raison pour laquelle il s'appelle Hippotoos. Dans le nom, je veux dire. Elle se rend au sanctuaire d'Hélios. Parvenue dans l'enceinte, elle est frappée par la vue des offrandes, anathémata. Bon, c'est banal, anathémata, mais on va beaucoup revenir sur anathémata ou anathéma, qui lui rappelle les heureux jours, je cite là, vous l'avez d'ailleurs, ça je crois, où elle venait avec Abrocomès. Ouais, ça commence au 6-1. Hein. Et elle s'adresse au dieu soleil, Hélios. Ô toi dont l'œil s'abaisse sur tous les humains, seul infortuné que je suis, je n'ai pas eu ton regard favorable. Dans mon bonheur, je venais jadis avec Abrocomès t'adorer et t'offrir des sacrifices. Mais la pauvre petite, disant cela, elle fond en larmes. En raison du spectacle, des anathématas déposés par les fidèles. Elle demande alors à Hippotoos de la laisser se couper une partie de sa chevelure, je suis dans le texte là, qu'elle veut consacrer à Hélios. Anathéinai. Hein, vous avez le grec, mais peut-être défiguré. À Hélios, en priant Hélios, que ça se taille, pour le salut d'Abrocomès. Hippotoos y consent. Là, j'avoue que sur le détail de ces circonstances, je ne sais pas très bien pourquoi elle demande. Enfin, c'est une autre question. Pourquoi il faut qu'il dise oui? Elle se coupe alors tout ce qu'elle peut. On se coupe toujours. On n'est jamais coupé dans ces cas-là. Hein. C'est toujours actif. Toujours, 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 y compris dans le deuil et même pour les sacrifices de puberté. On n'est jamais coupé par... Il y a des barbiers en Grèce. Il y en a plein. Ça discute le bout de gras et du temps qui fait, mais là, non, pas du tout. On se coupe toujours. Attends que tout se soit sorti et fait son offrande avec cette dédicace. Encore le même verbe. On reviendra sur titémi, parce que c'est le verbe titémi en réalité. Épigrapsassa, hein. Pour son époux Abrocomès, Antia a consacré au dieu sa chevelure. Ayant fait cela, elle prie Hélios et sort avec Hippotoos. L'oblation, parce que là, il s'agit bien d'une oblation, puisque c'est pour un dieu. Hein. L'oblation de toute partie d'une chevelure, lors de la puberté ou du mariage, je l'ai déjà dit, est commune dans divers cadres. Hein. Ça commence dans l'oïkos, dans les groupes de sociabilité, j'appelle pas ça des associations, moi, dans la cité tout entière, hein. ou pour formuler un vœu ou remercier la divinité de son accomplissement. Tout ça, c'est normal. Considéré du point de vue formel, en regard de l'ensemble de la documentation, ce don d'Antia est fort commun. Ce qui le singularise, c'est la justification, la raison, si vous voulez, sentimentale de son geste. Mais la fin de l'histoire doit être heureuse, puisque c'est un roman de gare. Pendant ce temps, pendant qu'elle faisait ça, tout en recherchant leur maîtresse, les serviteurs du couple, Lecon et Rodé, franchement, Rodé, participaient aussi aux alliés. Ignorant du geste d'Antia, ils arrivent dans le sanctuaire, là où sont déposés les anathémata. 6.3, ils voient l'offrande et prennent connaissance du nom de leur maître. Leur premier mouvement est de baiser la chevelure. Et longuement, ils pleurent comme si leur maîtresse, c'est ça, oui, mais comme si leur maîtresse était devant eux, comme s'ils la voyaient, c'est Blépontès. On peut traduire comme on veut, comme s'ils la voyaient, comme si c'était elle, quoi. Ils sortent enfin et parcourent la ville cherchant à retrouver Antia. Ils vont la retrouver, vous en faites pas. Ils ont découvert l'offrande d'Antia, se sont approchés, l'ont identifiée, authentifiée grâce à la signature. Il n'y a pas de doute, c'est bien elle. Même s'ils ne sauraient confondre la présence physique d'Antia avec cette boucle, ils la baisent comme si c'était elle. Il n'y a pas de doute là-dessus. Cette petite histoire illustre bien le fait que notre façon de qualifier un tel gestème de don ou bien d'offrande, en contresens avec le sens propre du verbe titémi, qui le désigne, privilégie le rapport personnel du sujet avec l'objet de la procédure. Ça signifie en quelque sorte sortir quelque chose de soi, extraire un des biens qu'on a pour le transférer vers les dieux. Je ne peux pas m'empêcher de citer là un Gaulois du IVe siècle qui s'appelle Salustios, qui a écrit un petit manuel de polythéisme qui s'appelle « Des dieux et des hommes » ou « Du monde et des dieux » comme on voudra, et qui écrit ceci au IVe siècle de notre ère, un Gaulois, un Aquitain. « Puisque nous tenons, nous recevons tout des dieux, il est juste d'offrir aux donateurs les prémices de leurs dons. Nous offrons les prémices de nos richesses par des offrandes votives, crématones, etc. De nos corps par des cheveux coupés, dia comes, par l'intermédiaire des cheveux, et de la vie par des sacrifices. C'est la vision que nous développons quand nous appelons ces dépôts, que les Grecs appellent des dépôts, des dons ou des offrandes. C'est exactement cette vision-là. Puisque nous tenons, nous ressentons. Le mot grec qui désigne l'objet offert, anathéma, n'exprime pas cette idée de don. Il ne fait rien d'autre que de décrire un état quasi topographique, une position dans l'espace, le fait d'être posé sur ou devant Anna. Anna, c'est plutôt ça. L'attention se portée à la position de l'offrande importe dans la scène d'Antia, change la perspective de l'analyse. François de Polignac en a proposé le commentaire suivant. J'ai trouvé ça dans le volume de Kernos, le supplément sur le donateur, l'offrande, la déesse. Hein. Il avait fait un court commentaire sur ce qui s'était passé. J'avais trouvé ça intelligent. Et il disait, le donateur n'est pas isolé. Il ne l'est pas. Alors, c'est dans la scène d'Antia, c'est très clair. Il y a du monde partout, il y a foule. Et elle attend que les gens soient partis pour sortir elle-même. Hein? Il n'est pas isolé, il n'est pas plus dans l'ensemble des donateurs vis-à-vis des dans l'ensemble des donateurs que vis-à-vis des spectateurs de l'offrande. Dans sa première étape, le cas d'Antia illustre bien ce caractère dynamique de la formule grecque de l'échange votif. 1. Les découvrant, les anathémata, elle a été d'abord spectatrice des dépôts. 2. Cette vision a suscité chez elle le désir d'enchérir sur ses demandes de protection en imitant leur démarche dans l'attente des bienfaits personnels de la divinité. 3. Par la médiation de la signature épigraphe, c'est à chaque fois important quand c'est mentionné, de l'anathéma, elle s'instaure un véritable échange entre la donatrice et le public, ce qui permet aux serviteurs après, justement, d'intervenir comme public, mais aussi comme agent. Bon, alors ça, c'est l'histoire romanesque qui les fait jouer un rôle après dans l'identification et dans la recherche d'Antia. Question un peu annexe, mais qui va nous aider à comprendre un peu mieux certains gestes. Quelle forme physique puisqu'on parle de dépôt, on parle là de matière. Hein. Quelle forme physique prenaient les offrandes capillaires en de tels sanctuaires, ou bien lors de la remise en dépôt souvenir dans les mains d'un proche? Et les cheveux, ça se perd dans un sanctuaire. Ce n'est pas évident de penser de quelle façon on pouvait conserver les cheveux des fidèles, comme on dit ça. Fidèle ne me plaît jamais, mais j'ai eu bien obligé. Nous n'en savons généralement rien de dans quoi on les mettait. Mais on peut comparer la mention sus dite d'une authentification écrite de l'auteur du dépôt avec les témoignages archéologiques et épigraphiques, ça existe, de cette pratique issue de divers horizons. Mais il n'y a quand même pas fou, là. Par exemple, les centaines d'inscriptions qui proviennent du sanctuaire de Zeus Panamaros, en Carie, à Stratonicée, les dédicaces de l'Asclépieion de Paros, là aussi, on a des noms, c'est identifié, et par le témoignage personnel, c'est toujours ça mieux quand on a un vrai texte, de Lucien, ou du pseudo-Lucien, je m'en fous, suffisamment explicite pour que je le cite tout seul. C'est le texte suivant, sans doute. Souvenir de Lucien. D'abord, il est intelligent, en bonne méthode historique, il fait précéder ses observations d'une restitution du contexte panhellénique du rituel. Il dit, les gens d'Hierapolis, parce qu'on peut l'idée, ont aussi une autre coutume qui leur est commune avec un autre peuple de Grèce, les habitants de Trézène. Je veux dire ce que font ces derniers. Ils ont porté une loi qui interdit aux jeunes filles et aux garçons, avec un terme assez recherché, de se marier avant d'avoir coupé leur chevelure à Hippolyte, et cette loi est observée. Le Lucien en question, il a tout faux, parce que ça existe ailleurs. Il n'y a pas que Trézène, il y a d'autres endroits, Délos par exemple, il y a bien d'autres endroits. Mais ce n'est pas grave. Il revient à Hierapolis, parce que là, il connaît, il a vécu. Les garçons y consacrent les prémices de leur barbe. Ah, vous voyez que ce n'est pas que les cheveux, hein. Avec la parquet. Hein. On laisse croître les saintes boucles, ça j'en parle longuement dans mon livre, mais j'ai pas le temps. Pourquoi saintes? Des jeunes filles, dès leur naissance, egnetes. Quand les uns et les autres viennent dans le sanctuaire, on leur coupe les cheveux, et c'est là le cas unique où les cheveux sont au passif, sont coupés par d'autres. On les dépose dans des capsules d'argent, ou même des vases d'or que l'on cloue, ça le verbe clouer m'a interloqué, que l'on cloue dans le temple, après que chacun y a inscrit, comme Antia, son nom. Après quoi, l'on se retire. C'est ce que j'ai fait moi-même dans ma jeunesse, et ma chevelure et mon nom sont encore dans le temple. Tout le monde peut brandir autant. C'est cette pratique qui consiste à se servir soit de capsules, soit de vases, soit comme à Panamara, de véritables boîtes. Alors, l'image numéro 9, là, vous montre une des boîtes que les fouilleurs, Cousins et Deschamps, avaient mis au jour dans le sanctuaire de Zeus Panamaros, là, la stèle numéro 9. Voilà ce que c'était. C'était muni d'une petite porte sur le côté qui fermait la boîte, et donc les cheveux étaient conservés là-dedans. Maintenant, on n'a plus de problème à se demander comment on pouvait conserver des hein. Et puis, en plus, il y avait les noms dessus. On peut comparer avec ce que nous savons, par exemple, de la déposition barbée à Rome, au moins chez les élites. Hein. En 59, Néron fit publiquement couper sa première barbe. Il l'enferma, je cite le texte de Suétone, il l'enferma dans une boîte, et il emploie le mot pyxis pour désigner ça, une boîte d'or enrichie de perles d'un très grand prix qu'il consacra au Capitole. Son nom, à tout le moins, devait être inscrit sur cette pyxis, comme on le voit faire à Rhodes, à Hierapolis, à Panamara. Comme on le voit aussi sur les cheveux votifs du document 8 que vous avez là, les nattes qui sont, n'allez le croire, mais c'est des nattes de garçons, hein, de deux jumeaux, disons, le même âge et le même patronyme, évidemment. Et c'est un thème de Phtiotide, ça. Oui, je crois. Oui, c'est pas marqué. C'est en Thessalie. Hein. On a très peu d'exemples comme ça, hein, d'ex-voto. Et d'ailleurs, c'est assez curieux l'histoire de. Si on ne déborde pas. Mm-hmm. Si. Bon, je saute. Donc le curieux, on s'en fout. Ce qui compte le plus dans la continuité de mon enquête, là, c'est que dans un contexte fort différent, nous retrouvons la figure du dépôt capillaire, là, entre les mains d'un proche, ici, aux soins d'une divinité, à défaut d'eux, à la place d'eux, etc., etc. Les expressions dont se sert Xénophon d'Éphèse sont explicites. Les serviteurs embrassent Aspasontai Tenkomen, les cheveux de leur maîtresse, ils en pleurent beaucoup. Bref, ils se comportent comme s'ils la voyaient, Blépontès, on l'a vu d'ailleurs. Prenons un peu de recul. Fragments détachés du corps, les cheveux coupés jouissent de plusieurs qualités qui les distinguent de beaucoup d'autres offrandes. Bien que séparés de leur substrat dermique, donc de leur nourriture, ils gardent néanmoins un statut quasi corporel. À l'aune de la vie humaine, deuxième point, les poils sont imputrescibles comme une continuité de l'individu. Pour ceux qui la reçoivent, que ce soit les mortels ou les immortels, cette partie soustraite à soi remplace toute la personne, je m'ai aimé en plus. Hein. De ce statut de morceau détaché représentant tout le corps absent, à leur éventuel traitement comme relique, il n'y a qu'un pas qu'on franchit d'autres cultures. Comme je n'ai pas le temps, je saute un peu, mais à Byzance, c'est extraordinaire. Siméon le jeune, le stylite, hein, avait une telle puissance d'intervention sur la vie des gens dans ses cheveux, un peu comme un Samson, qu'on avait fabriqué une véritable tricothèque. Alors, j'appelle une tricothèque, tout le monde comprend, hein, des conservatoires à cheveux ou à poils. Et donc, on avait autour de lui, comme ça, toute une tricothèque dans le monastère. Et on pouvait distribuer ses cheveux, je cite, ses cheveux en eulogia aux pèlerins venus le voir. Ce qui entraînait, comme on peut s'y attendre, de très grands bienfaits pour les bénéficiaires. Les moines de son propre monastère, qui est quand même en Syrie du Nord, hein, d'aujourd'hui, presque libéré, là, dans le Nord, à l'endroit dont on parle ici, n'est-ce pas, hein? D'accord. Les moines de son propre monastère transportaient les cheveux de Simon jusqu'à Constantinople et ils guérissaient même des préfets du prétoire. La puissance. Figurant pour les deux sexes parmi les plus beaux objets, alors ça, j'ai pas le temps d'en parler, la beauté de la chevelure. Corporelle, la chevelure fait plus. Objet de soin, d'attention, elle exprime beaucoup d'éléments de l'homme, l'être humain, on dira. Elle exprime son âge. Elle est un enjeu social pour le féminin qui le cache ou le montre. D'elle rayonne la charisse. Substitut du corps, contrition in absentia, moyen de remémoration, et puis don amoureux, enfin, j'y viens. Le thème littéraire du don de la boucle s'enracine dans des pratiques tout à fait diachroniques. C'est combien d'amoureux, combien de fautes de portrait, ou même pour accompagner un portrait, se sont préoccupés de laisser entre les mains de l'aimé cette même partie d'eux-mêmes, combien le font et le feront. Encore, chez Théocrite, il n'y a pas grand-chose chez Théocrite, mais quand même. Pour contraster avec les usages brutaux du cyclope, la boucle de cheveux s'inscrit dans le réseau du commerce amoureux. Texte 10, l'amour du cyclope ne s'exprimait pas par des pommes, des roses ou des boucles de cheveux, mais par de vrais transports directs, c'est très euphémique, hein, là. C'est euphémisé, hein. Des hors-tails, brutaux plutôt, hein. Et je signale que kikinoi, c'est un terme assez rare pour désigner les cheveux et qui est plutôt de contexte érotique. C'est presque toujours en contexte érotique qu'on parle des cheveux avec ce terme-là. Arrivé à ce stade, je dois vous dire qu'il va falloir qu'on se libère des chaînes de l'historiquement correct pour nous affranchir du péché d'anachronisme, parce que les meilleures illustrations des échanges de Mnémeia dans l'amour, j'aurais dû parler de l'amour tout de suite, se récolte en réalité bien plus tard. Alors, je vous ai mis un choix, mais j'aurais pu en mettre d'autres. Moi, ce que je préfère, quitte à franchir direct, c'est d'abord Flaubert et puis ensuite Fellini. C'est Flaubert qui le dit les choses le mieux. Alors, c'est dans un ouvrage de la prime jeunesse. Vous savez qu'il a commencé à écrire très tôt et qu'on trouve assez difficilement les premiers écrits de Gustave. C'est une des plus belles choses. Oh, mince! Ça me fait penser qu'une faute d'orthographe, quelque part, vous signale. C'est une des plus belles choses des amants que les cheveux donnés et échangés. Que de belles mains, depuis qu'il y a des nuits, ont passé à travers les balcons et donné des tresses noires. Arrière, les chaînes de montres tordues en huit, les bagues où ils sont collés dessus, les médaillons où ils sont déposés en trèfle, et tous, et tous ceux qui ont pollué la main banale du coiffeur. Je les veux tout simples et noués aux deux bouts d'un fil, sans perdre un seul. On les a coupés soi-même à la tête chérie dans quelques suprêmes moments, au plus fort d'un premier amour, la veille du départ. Mais c'est Fellini le mieux. Fellini raconte, vous savez qu'il est né à Rimini. Et dans Amarcord, vous voyez Rimini, hein, Rimini complètement, c'est sur la côte adriatique, hein, Rimini. Et dans une de ses souvenirs, il parle des dames, une ouvrière qui venait refaire les matelas dans la maison du papa. Enfant, il vit un pendentif, alors ça c'est moi qui écris, il vit un pendentif au cou d'une certaine Angelina qui venait chez lui refaire le matelas. C'était une petite boîte de verre contenant une mèche de cheveux serrée par un nœud. « Qu'est-ce que c'est ?» lui demandai-je. « Ça, ce sont mes cheveux, et ça, ce sont les moustaches de mon fiancé. Je lui ai coupé la nuit pendant qu'il dormait. » C'est pas beau, ça, hein ? De cette façon, lui qui est allé travailler à Trieste reste indissolublement lié avec moi, hein, antisomatos. À la place du corps d'Angelina, il a les cheveux d'Angelina. Voilà. Je peux encore... J'ai pas le temps. Vous dire simplement que... Dans l'exemplier, j'ai fait une faute d'orthographe et je m'en suis aperçu tard. Vous en foutez ? Bon. Non, mais je m'en fous. Bon, d'accord, on laisse tomber. Il y a bien un texte et un seul, datant de l'Antiquité, qui évoque les échanges amoureux comme ça, au travers de dons de certains objets. Malheureusement, il ne parle presque pas de poils, ni de cheveux, hein. C'est le texte 14, il est long à lire, puis vous avez d'autres choses intéressantes à écouter maintenant, donc je vais vous saluer et vous remercier. Merci. Je m'en vais.
Très bien. On reviendra sur ces propos qui étaient absolument passionnants. Je crois qu'on a eu un plaisir énorme vraiment à t'écouter. On aurait volontiers passé la soirée entière encore. Mais on peut écouter Michel Blansky qui vient de l'Université de Paris 7 et qui va nous parler... Ah, d'accord. Ok, alors 4. Le corps du notable romain est-il splendide ? L'importance sociale et vocabulaire visuel. Et on reviendra bien sûr en discussion sur les deux interventions.
Merci. Alors, est-ce que ça marche ? 1, 2, oui. Peut-être un peu plus près encore. Alors, je voudrais m'intéresser ici à l'analyse d'un terme qui, chez Romain, possède une forte connotation sociale. Avant de le faire, évidemment, je vais remercier très vivement les organisateurs de cette journée, puisque ça me permet du même coup d'exposer un début de recherche qui vient à la suite de recherches précédentes, mais qui, j'espère, va continuer. En tout cas, ça va avoir une valeur programmatique, surtout comme c'est tout à fait un début. Si vous pensez que je dis une bêtise, faites-vous plaisir, nous sommes en fin de journée, nous sommes tous un peu fatigués, donc ne vous maîtrisez pas, dites ce que vous pensez. Donc le terme dont je veux parler, plutôt l'ensemble de termes dont je veux parler, c'est le mot latin « splendor », l'adjectif qui lui correspond, « splendidus », bon, le verbe, hein, « splendere ». Ces mots ont un sens bien concret, ils se rapportent à ce qui brille, mais ils sont très souvent employés dans notre corpus, dans une acception morale ou métaphorique. « Splendide » est une qualification très élogieuse, positive, hein, qui relève celui qui est concerné. On dit un monsieur splendide pour dire un monsieur de qualité. Une ville splendide pour dire une ville très célèbre, très renommée. Et le mot est souvent employé. Hein. Il y a des centaines d'occurrences dans un sens moral. Donc j'aimerais savoir s'il est possible de trouver à l'origine de cet emploi la trace d'un sens concret. Les gens qu'on qualifie de splendides, on va dire les notables, est-ce qu'ils sont effectivement plus brillants, plus blancs que blancs, plus éclatants que les autres ? Est-ce qu'ils ont un corps qui correspond à ça ? Alors, je vous donne tout de suite un élément de réponse. Au début, je voulais dire oui. Maintenant que je cherchais de plus près, je vais plutôt dire oui, mais. Vous allez voir plus précisément en quoi. Pour ce qui est de la connotation sociale appliquée au splendor, c'est connu depuis longtemps. Mommsen en a déjà parlé. C'est associé de manière appuyée à l'ordre équestre. Même si cette association n'est pas exclusivement réservée aux chevaliers, le fait est qu'elle les concerne très souvent. Il arrive même, suivant les auteurs, que ce mot puisse s'appliquer plus particulièrement à une élite parmi les chevaliers. Donc c'est un mot qui rose vraiment celui qui est concerné. Un chevalier splendide, les membres les plus splendides de l'ordre équestre, ce sont des mots qu'on peut employer. De façon générale, on qualifie de splendide au sens moral du terme, donc des cités, colonia splendidissima, une des cités romaines ou non d'ailleurs, des ordines, on peut dire un ordo splendidus pour parler du Sénat ou d'un ordre de décurion dans une cité, les grands hommes, souvent des chevaliers comme je vous ai dit, mais suivant les auteurs, parfois ce n'est pas seulement eux, ça peut être des sénateurs, ça peut être tout simplement des individus éminents. On peut dire aussi « splendide natus », né, entre guillemets, de manière splendide, né dans une très bonne famille, c'est ce que ça veut dire surtout, de très grande naissance. On peut le dire en public comme en privé. En public, évidemment, c'est très flatteur. Et souvent, en contexte oratoire, en contexte public, dans une plaidoirie, par exemple, on met très souvent le terme au superlatif, « splendidissima colonia », par exemple. Donc, dans tous les cas, c'est un mot qui distingue au sens fort celui qui est qualifié. Vous êtes splendidus, et bien vous jouissez de qualités propres qui font de vous une personne très estimée. Elgouache et Nicolet ont déjà insisté sur ce point. Pardon. C'est une forme d'éclat qui attire l'attention ou l'admiration. Le terme existe aussi en contexte épigraphique. Il y a un article de Ségolène de Mougins sur la question. Il est donc flatteur de l'employer en public dans des dédicaces. Le mot est associé à la gloria, à la virtus. Il comporte une forme de dignitas. Et Cicéron, dans sa correspondance, en fait l'une des caractéristiques essentielles d'un homme estimable. Il en parle autant en public qu'en privé. Alors Cicéron, l'une des principales sources pour parler de cette notion, il y a plusieurs centaines, là aussi, d'occurrences chez lui. Donc, est-ce que ce mot a, pardonnez-moi l'expression, un noyau rationnel ? Est-ce que, si splendide, pris littéralement, veut dire brillant, éclatant, est-ce que c'est le reflet d'un imaginaire visuel qui associe au notable ? Alors pour préciser un peu l'enjeu, en fait, il faut que je rappelle une recherche que j'ai faite précédemment, il y a un an et demi, deux ans, sur l'un des emplois du mot sordide. Le mot sordide, littéralement, veut dire sale. Les sordesses, c'est la saleté, la crasse. Vous allez voir d'ailleurs dans l'exemplier que je vous ai distribué. Alors c'est un mot qui est associé à la pauvreté. On peut parler de la plèbe sordide, des couches sociales les plus viles qui sont sordides. Mais les actions opposées au comportement des notables, en particulier quand ces actions sont menées par eux-mêmes, par exemple... Je sais pas, je suis un homme politique et je pratique la corruption ou je trafique des honneurs ou des choses comme ça, c'est sordide. Je suis un homme riche et je pratique la lésinerie, c'est sordide. Pourquoi des actions aussi sont appelées de ce mot-là ? Pourquoi on emploie le mot sale ? Eh bien, chez Cicéron, donc c'est l'un des textes que je vous ai passé. En fait, je suis seul à ne pas avoir mon propre exemplier, si je pouvais l'avoir. Merci beaucoup. Oui, mais je préfère quand même. On n'est jamais trop prudent. En fait, c'est le deuxième texte, excusez-moi, que vous avez ici. Bon, c'est un texte très connu qui dit quelles sont les conditions sordides et les autres. Là, sordide est clairement employé en opposé de libéral. Libéral au sens digne de l'homme libre, c'est-à-dire du notable ici. Donc, je pense qu'à l'examen des conditions matérielles de vie des Romains des couches les plus basses, effectivement, l'univers des pauvres est plus sombre et plus sale que celui des couches honorables. La nourriture... sombre, on dit du pain noir, du pain sordide, les vêtements sont passés, ils ont un moindre accès aux soins corporels, ils y vont moins souvent, ils n'ont pas accès à la même variété de soins. Je pense qu'il y a une réalité. Et à titre d'illustration, premier texte, il y a un texte de Calpurnius Siculus, c'est il imite Virgile, il y a un berger qui arrive à Rome, et qu'est-ce qu'il voit quand il arrive à Rome ? Je suis arrivé aux places où une foule sordide en vêtements bruns contemplait le spectacle entre les sièges réservés aux femmes. Car partout où il y avait des places libres à ciel ouvert, se pressaient les chevaliers et les tribuns en toges blanches. Donc c'est très fort. Ils sont blancs et ils sont à ciel ouvert, sous le soleil. Donc vraiment, ils éclatent au milieu de tout le monde. Ça, il faut que vous reteniez absolument. Mais les autres, par contre, eux, ils sont sales. Donc ça veut dire plusieurs choses. D'abord, qu'il y a une vision de la société en couches qui se superpose, sauf que là, c'est dans l'autre sens, qui est suggérée ici. Mais il y a surtout une opposition morale dont sordidus est un des termes. Sordide, c'est la saleté du pauvre, mais c'est aussi, par extension, le comportement qui lui est associé. Le pauvre, il compte ses sous. Par contre, le notable, il ne doit pas compter ses sous. Le pauvre, il est sujet à la corruption. Le notable, non. Donc si, en tant que notable, vous comptez vos sous, vous êtes sujet à la corruption, vous vous comportez de manière sordide. Alors, est-ce que ça marche avec splendor ? Regardons ce que désigne le mot dans un sens concret. Alors, je ne vous ai pas donné d'exemple ici, vous allez voir par la suite. Donc, qu'est-ce qu'on désigne par là ? Tout ce qui est susceptible de briller, d'éblouir ou d'attirer le regard. Les astres, la lune, le soleil, l'eau luisante, la mer scintillante sous les étoiles, les métaux brillants, or ou argent, ceux qu'on a briqués pour les faire briller, le feu, le foyer, la foudre, les gemmes, le marbre blanc. Donc partout où il y a de la lumière, soit produite, soit reflétée, parfois violente, on parle de splendeur. Et en plus, cette splendeur est une qualité. Hein. C'est une qualité qui rehausse l'objet qui est concerné, un artefact qui est plein de splendeur, c'est un artefact qui a plus de valeur. Texte 4 de Martial. Hein. Martial se vante d'une toge brillante qu'on lui a offerte autrefois. Bon, aujourd'hui, elle ne l'est plus, mais au début, il était très, très fier de cette toge. Le fait que ce vêtement soit brillant et lui donne une qualité supplémentaire. Dans le cas du corps, il y a quelques occurrences. Enfin, quand c'est appliqué au corps, bon, il y a quelques occurrences. Le corps lui-même peut apparaître comme brillant à travers telle ou telle de ses parties, les yeux baignés de larmes, les cheveux gras de parfum, mais attention, ce type d'utilisation est rare, et je le dis à dessein. Des bras épilés et blancs qui trahissent le mode de vie efféminé de l'homme concerné. On pourrait ajouter un item, texte 3, les dents bien nettoyées. Voilà. J'ai deux références en tête. Donc, une d'Apulée que je n'ai pas citée, mais où il est clairement question d'un dentifrice. Et le texte de Scribonius Largus qui dit donc un dentifrice pour renforcer et faire briller les dents. Puis il donne après la recette de ce dentifrice. Scribonius Largus n'est pas un poète. C'est quelqu'un de très pragmatique, il dit quels sont les ingrédients. Donc splendidos, ce n'est pas un terme poétique ou lyrique ou quoi que ce soit, ça veut clairement dire pour que ça brille. Donc à partir de cette réalité bien visible, on appelle splendidos ce qui brille. Est-ce que ça peut justifier qu'on parle ainsi des gens célèbres et notables ? Et le lien est très tentant. Je vous renvoie au texte là aussi très connu de Quintilien, donc 5 dans l'exemplier, qui décrit l'apparence globale que doit afficher l'orateur distingué en la justifiant par la convergence des regards de ses concitoyens. Pour la façon de briller de l'orateur, il n'y a rien de spécial, sauf que chez lui, elle se remarque davantage. Qu'elle soit donc, comme elle doit l'être pour tous les gens de distinction, éclatante et mâle. En effet, pour la toge et la chaussure et la chevelure, l'excès de soin est aussi blâmable que l'excès de négligence. Le texte a l'air très simple, montré comme ça. Il y a quelques petits détails cependant obligés de regarder de plus près. D'abord parce que Quintilien, comme vous l'aurez remarqué, parle surtout du vêtement. Il ne parle pas du corps, mais du vêtement. Et que l'appréciation d'un vêtement splendide est différente suivant les auteurs. Lui associe l'allure splendide d'un vêtement à quelque chose de mesuré, de modéré. Ni trop dans un sens, ni trop dans l'autre. Ce n'est pas le cas de Sénèque. Sénèque, texte 9. Sénèque, texte 9, bon, excusez-moi, l'ordre des exemples dans l'exemplier n'est pas exactement le même, mais bon, voilà. Lui, quand il fait ses leçons de philosophie à Lucilius, dit, en plus on est au tout début de la pseudo-correspondance, voilà ce que tu dois faire avec ton vêtement, que la toge ne brille pas, non splendeat toga, mais qu'elle ne soit pas crasseuse non plus, nesordeat quidem. Donc ici, splendidus, c'est plutôt dans l'un des deux pôles, c'est pas au milieu des deux, c'est dans l'un des deux pôles. Reste cependant qu'il est quand même posé en opposé, si je puis, excusez-moi cette expression pas très élégante, de tout ce qui est sordidus. Ici, splendidus est opposé à sordidus. L'autre chose qui fait que cet exemple ici ne nous gêne pas trop, c'est qu'en fait, Sénèque est dans une démarche philosophique qui n'est pas du tout une démarche civique comme celle de Quintilien dans le texte précis ici. Pour les autres textes, c'est autre chose. Mais cela dit, on peut effectivement penser que le brillant de la toge est l'un des critères visuels de la sélection sociale en contexte civique, lorsque la toge est celle du candidat, littéralement, dans le cadre des compétitions électorales. Et puis à l'inverse, les pauvres, qui ne peuvent pas se payer de vêtements brillants, ils sont peu à peu marginalisés et exclus du forum. Je vous renvoie au texte de Suétone sur Auguste, excusez-moi, qui chasse les gens qui ne viennent pas en toge sur le forum. Il s'agit en fait des pauvres qui ne peuvent pas se payer des toges. Donc, si vous faites le lien avec le texte de Calpurnius Siculus que j'ai cité en début d'une intervention, les gens qui ont des vêtements sales, on les exclut du forum. On ne veut garder que des gens qui ont des vêtements brillants et propres. Autre point qui fait que le brillant est l'un des critères de la sélection sociale en contexte politique, c'est qu'on s'en sépare lorsqu'on est marginalisé de la vie politique. L'homme politique en deuil. L'homme politique en deuil prend un vêtement sombre. Même chose lorsqu'il est accusé dans un procès pénal, pareil, il cesse de s'entretenir, il prend un vêtement sombre. Il cesse aussi de se soigner les cheveux, ce qui fait aussi écho à notre texte de Quintilien, puisque si vous regardez attentivement, la chevelure est le seul élément corporel qu'il mentionne dans ce texte. Donc en tout cas, ce qu'on aura remarqué, vous l'avez déjà pressenti, c'est que le mot splendidus, éclatant, brillant, peut être employé en contraste avec sordidus, sale, mais aussi vil. On a vu ça pour le texte de Sénèque. Mais cette différence n'est pas seulement fréquente lorsqu'on oppose le brillant physique au crasseux physique. Elle est également visible quand on oppose le brillant moral, social, appelez ça comme vous voulez, au crasseux moral. Regardez, texte 6. Cicéron, son discours contre Vatinus. Alors, Cicéron est dans une situation un peu compliquée parce qu'il attaque Vatinus, mais Vatinus est l'un des clients de César. César est trop puissant pour que Cicéron en dise du mal. Donc ce qu'il va faire, c'est, pour les besoins de la cause, il va séparer Vatinus de César. Qu'est-ce qu'il dit ? Et je t'y invite par avance, ne va pas mêler tes propres vilnies, et toi sordes, excusez-moi, j'ai fait une faute, à l'éclat de nos plus brillants concitoyens. Donc, nos plus brillants concitoyens, c'est qui ? Ceux qui sont pleins de splendeur, c'est César. Et lui, par contre, il est plein de sordes. Même type de contraste chez Tacite, texte 7, vous retrouverez exactement le même principe. On oppose explicitement la saleté et le brillant. On peut appuyer ce contraste, d'ailleurs, qui vaut aussi pour ce texte, qui oppose non pas seulement le brillant et le sale, mais aussi le lumineux et le ténébreux. La condition de l'homme de rien est appelée obscure, elle est invisible dans les ténèbres, donc elle n'attire pas les regards. Le texte peut être explicitement décrit, c'est le cas ici pour Tacite, texte 7. Je pense également à un texte de Cicéron, où c'est un sens un peu différent, mais où il joue là-dessus. Il parle de Caton le Jeune, qui a été obligé par les partisans de Claudius à aller faire une mission assez infamante politiquement au royaume de Chypre. Qu'est-ce qu'il dit ? C'est pas dans l'exemplier. Ah si, pardon, c'est texte 8. Mais il y a plus, ils ont même voulu ternir par cette affaire l'éclat du nom de Marcus Caton, ignorant ce que représentait la force du caractère, de l'intégrité, de la grandeur d'âme, d'une vertu enfin que n'ébranle pas la violence de la tempête, qui resplendit dans les ténèbres, qui reste attachée à la patrie lors même qu'on en chasse, qui rayonne toujours de sa propre clarté et n'est jamais altérée par une souillure étrangère. Vous voyez qu'il joue à fond sur ce thème, tout en le mêlant avec un thème philosophique qui est celui de la vertu du philosophe du stage stoïcien. Bref, peut-être peut-on parler de notables brillants parce qu'ils le sont réellement. Ce qui pose quand même question, c'est que le mot splendide, apparaît dans des cas où il n'est pas question de choses visuelles. On peut parler, texte 10, par exemple, d'une sentence splendide, la sentence de Minos aux enfers, une sentence qui se fait entendre partout dans le monde, donc qui rayonne. On peut également parler d'une voix splendide. C'est ce que dit Cicéron dans le Brutus sur l'un des grands orateurs de Rome, et j'ai un trou de mémoire, j'oublie de qui il s'agit. Je fais une parenthèse pour dire aussi que splendide apparaît beaucoup dans le vocabulaire technique sur les qualités rhétoriques d'un texte lorsqu'il est bien composé. Mais là, c'est tout un autre sujet, puisque tous les termes de la propreté, de la saleté, du visuel sont des termes descriptifs en rhétorique. Mais je ferme la parenthèse. En tout cas, c'est une voix qui porte loin. Donc on quitte complètement la métaphore visuelle. Ce qui compte ici, c'est que ça se diffuse. On est bien dans une certaine intersubjectivité qui définit l'être d'une chose. Elle est parce qu'on la voit, on l'entend, elle fait réagir, elle en jette. C'est l'idée qu'on pourrait garder. Ce qui est splendide, c'est ce qui en jette. Un notable est splendide parce qu'il en jette. On peut voir aussi à quel point l'éclat, au passage, joue un rôle important dans la manière dont les Romains caractérisent les objets qui se présentent à eux. Il n'y a pas que la couleur, la texture, la nuance, la tonalité, toutes ces caractéristiques qui sont employées par les historiens de la couleur. Mais il y a aussi le caractère brillant ou non. C'est important à mentionner. Je pourrais citer aussi le fait que, par extension, une table bien mise, on dit qu'elle est splendide. Pourquoi ? Parce qu'on a mis de la vaisselle brillante dessus. Alors on pourrait en rester là. Ils sont splendides, peut-être parce qu'ils ont un corps splendide, une apparence physique splendide, peut-être parce que, de façon métaphorique, on emploie ce mot pour dire qu'ils se diffusent partout dans la société et que les regards convergent vers eux. bien. Mais il y a un problème, c'est que je n'ai pas vraiment parlé du corps ici. Les choses se corsent. Parce qu'il y a un mot pour décrire le brillant d'une surface, c'est nitor. Et ce nitor, nitidus aussi, pareil, même principe. Même morphologie pour la construction des mots qui correspondent. Et justement, il est très rare en fait, qu'on parle d'un corps splendide. Je vous ai dit qu'il y avait 2-3 occurrences, mais c'est 2-3, pas plus. Et c'est pour des parties du corps seulement. Le mot qu'on emploie justement, c'est plutôt nitor et l'adjectif correspondant nitidus. Parfois, c'est synonyme. Le soleil, les astres, le ciel brillant peuvent être nitidi. Les gemmes, les joyaux, pareil. Les deux mots peuvent encore apparaître côte à côte. On l'a vu dans le texte de Martial mentionné plus haut, enfin plus avant, excusez-moi, moi j'ai une chose écrite, donc c'est normal que je dise ça, le texte 4. Mais Olugel aussi les emploie tous les deux pour parler, l'un après l'autre, hein, de l'éclat et de la splendeur de l'or. Donc, il les emploie l'un avec l'autre, nitor et splendor. Apulé parle en décrivant le brillant d'une chevelure d'un nitor splendidus. Donc il y a des passerelles. Mais le terme a cependant un sens qui est relié à l'univers du nettoyage. Ce qui est nitidus a été lavé. Une maison pimpante, chez Plaute, est qualifiée ainsi. Et pour le nettoyage corporel, le terme est vraiment privilégié. Hein. Je vous ai pris une notice de grammairien, celle de Nonius, texte 12, qui cite en plus des textes anciens. Nitidare, il y a ce verbe qui est formé sur nitidus. Nettoyer, ça veut dire laver. Même chose pour Sénèque, texte 13. On pourrait en reparler éventuellement. Les hommes lavés, bien parés, sont nitidis. Pourquoi l'univers balnéaire est l'univers du nettoyage? C'est parce que nitor est associé à ce qui est gras. Or, on se lave en se frottant avec de l'huile. Et l'huile est pleine de nitor. Texte 14 de Vitruve, il parle du nitor de l'huile. Donc ça explique aussi qu'on parle, par exemple, dans la poésie latine, en métonymie, de la palestre nitida. Pourquoi? Parce qu'on utilise de l'huile. Donc ce texte a une connotation un peu grasse, un peu luisante, si je puis dire. Ça dénote quelque chose de luisant. Texte 16, c'est ce que vous voyez ici. Claude aux enfers rencontre Narcisse, l'un des affranchis qu'il a fait exécuter, et celui-ci, le teint frais et clair, en homme qui sortait du bain, etc. Bon, le texte est assez satirique, on pourrait y revenir encore, mais en tout cas, le lien est clairement fait. Il est tout luisant parce qu'il s'est fait frotter d'huile, probablement d'huile parfumée, parce que c'est un affranchi des canons. Mais ici, ça a un rapport avec ça. Donc, ce mot a... Il y a aussi plein d'occurrences où on en parle pour les cheveux. Les cheveux gras de parfum, il y en a plein. Hein, il y a plein d'occurrences. Ce mot a un sens concret. Ce mot est palpable. Il décrit quelque chose de consistant. Il décrit un corps humain dans sa corporéité, si je puis dire. Un corps nitidus, c'est un corps nettoyé, pimpant à la limite du gras, mais peut-être même de l'immoralité. Le cas de Narcisse qui a été mentionné est clair, mais c'est également le cas d'Horace qui se décrit lui-même comme un homme nitidus, tout gras, tout frais, tout pimpant, du troupeau d'Épicure. Alors, j'ai bientôt fini, vous en faites pas. Par contre, il est très rare qu'on emploie nitor pour rehausser l'éclat social d'un individu. Ça arrive, mais dans des très peu cas, dans un nombre très, très faible de cas, excusez-moi. Une ville réputée peut avoir du nitor. On peut parler, il y a 3 occurrences, du nitor d'un règne. Un règne plein d'éclat. Enfin, 2 occurrences pour un règne et une pour une magistrature. Il apparaît une seule fois dans une plaidoirie de Cicéron avec ce type de sens, mais il est couplé avec splendor. Et il s'agit d'un jeune homme, Célius, qui a une vie un peu dissolue, il faut le défendre. Donc on dit nitor parce qu'il a une vie de quelqu'un qui se frotte d'huile, mais on met splendor à côté pour atténuer justement le côté gras en disant qu'il est jeune, il n'a pas très bien compris, mais en fait c'est du splendor. Bon, j'ai oublié de mettre le texte dans l'exemplier, je vous prie de m'excuser, parce que c'est un texte très, très significatif. En tout cas, nitor a un côté moins noble que splendor. Donc il y a quelque chose qui fait qu'on n'en parle pas ici. Pour essayer de comprendre encore, je citerai un dernier exemple ici, qui est tiré de Pline l'Ancien. Il parle des vases murins. Donc les vases, je sais qu'il y a eu un débat sur la question, il me semble que c'est les vases qui sont faits, corrigez-moi si je me trompe, dans des matériaux type onyx, sardoine, agate. Qu'est-ce qu'il dit? Leur éclat, splendor, manque de vivacité, il n'y a pas assez de force, et ils sont luisants plutôt qu'éclatants. Les termes choisis sont significatifs. Ça n'est pas un éclat fulgurant qui vous éblouit, mais c'est un éclat plus laiteux, plus gras.
où il y a moins de lumière, qui porte moins loin. Donc, je crois qu'on a assez d'éléments maintenant pour conclure. Le notable est splendide, effectivement. Il brille d'un éclat, peut-être réel, certainement métaphorique. Son vêtement est clair, on le voit, hein, il est devant tout le monde, on le voit, il se détache des autres. Les autres restent dans l'obscurité, lui est en avant. C'est comme s'il était, c'est comme si j'étais au premier plan d'un bas-relief, pour ainsi dire. Est-ce qu'il y a un lien objectif avec sa réalité physique qui fait qu'il se voit ? Bon, je pense que oui, mais je ne veux pas m'avancer tout à fait à fond pour surinterpréter. Par contre, pour la question « est-ce que son corps est splendide ?», son corps lui-même, je veux dire, j'ai envie de dire non. Le terme qui conviendrait à Nitidus est incongru et légèrement péjoratif. Et puis surtout, son éclat, cet éclat-là est trop gras. L'éclat du notable, je pense que c'est une expression que je vais garder, c'est un éclat sec. On peut le garder comme ça. Et surtout, je terminerai sur cette observation, j'ai l'impression finalement, bon, même s'il y a eu beaucoup de livres sur la question, beaucoup d'articles sur la question, et souvent des très intéressants, j'ai quand même l'impression qu'il n'a pas vraiment de corps. Ou plutôt, il en a un, évidemment. Hein. On le voit, il fait des gestes. Vous avez un Sempronius Gracchus. Non, c'est pas lui, mais peu importe, qui tout d'un coup tend son bras pendant les plaidoiries et il dénude son bras. C'est une nouveauté absolue, des choses comme ça, etc., etc. Bon, on voit son corps, effectivement. Mais, en fait, il est tellement médiatisé par le vêtement, par le geste, par la contenance, que dire qu'il a un corps n'a pas de sens. Ou alors, il faudrait dire que c'est un corps désincarné. Que c'est un corps, qu'il a un corps, mais qu'il n'a pas de chair. Et je pense que c'est là-dessus que Splendidus joue dans ce qui nous intéresse. Voilà, merci beaucoup.
Merci beaucoup pour cette communication qui était aussi très riche, très fine, hein, une très jolie analyse philologique et culturelle aussi. Alors on va passer aux questions relatives à ces deux dernières interventions. Qui veut se lancer ?
Est-ce qu'il pourrait y avoir une relation entre cette splendeur et des représentations des mêmes personnages avec des auréoles ou avec une sorte de...
Ah, j'y avais pas pensé.
De rayons.
J'y avais pas pensé, c'est à voir. Effectivement, il faut que je regarde. Oui.
Parce que l'auréole et le rayon sont des éclats secs. C'est aérien et surtout
lumineux. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ben, j'ai pas pensé, effectivement. Je note ça.
Est-ce que je peux poser des questions ? J'ai le droit ? Aucun mot sur... Je ne veux pas t'embêter, mais je suis intéressé par un parallèle avec un mot grec depuis le début. Y a-t-il... Tu as fait des recherches d'étymologiques dans les deux cas, Nitor et...
Oui, je suis allé regarder.
Rien trouvé d'intéressant.
Non, mais il n'y a rien qui m'a frappé comme ça, mais après, il faut que j'approfondisse encore. Oui, effectivement, il y a des équivalents grecs qui, me semble-t-il, sont employés aussi dans ce sens-là. Oui, on a, oui, voilà. Oui.
Il y a Ganos, évidemment, il y a Ganos. Pancrates, Ganos. Oui, bien sûr. L'éclat, les armes, tout. Le fruit de la vigne, tout ça, c'est du Ganos. Mais en revanche, les hommes, non.
Est-ce que c'est réservé à l'homme ? Est-ce qu'il n'y a pas des femmes ?
Ici, je me suis intéressé aux notables.
Mais il y a des notables femmes, surtout tardivement.
Il peut arriver... Non, alors maintenant que j'y réfléchis, lorsqu'on emploie le mot dans un sens strictement social, c'est le cas par exemple chez Tacite. Tacite parle effectivement de grandes dames qui viennent de familles splendides. Il dit par exemple que lui-même, grâce à Agricola, a épousé une femme née splendide. Il emploie le mot aussi dans ce sens-là. Mais les exemples auxquels je pense sont des exemples purement sociaux, c'est-à-dire que le mot est devenu complètement désincarné. Pour le reste, là encore, ce n'est pas une justification, mais effectivement, c'est une recherche qui en est à ses débuts, donc voilà.
encore dans l'Antiquité, parce qu'effectivement, il y a cette même notion de splendeur et d'éclat que donne la dorure. Et je crois qu'il y a... Et voilà, et la ganosis et tout ça, voilà, tout ça. Et donc, je crois qu'il y a, une phrase de Pline aussi sur le color siderum, sur l'éclat des étoiles, justement, qui renvoie justement à l'éclat métallique et à la beauté. Oui. Bon, c'était juste pour faire un parallèle aussi.
Je vais poser, c'est pas une question, c'est un complément par rapport à la présentation de Pierre Brulé et l'usage des cheveux. Actuellement, je travaille beaucoup sur les pratiques magiques. Alors là, évidemment, le cheveu comme substitut du corps, double du corps.
Ça alourdit.
Bien sûr, mais ça entre parfaitement dans le même système, quoi.
Je voudrais juste rebondir sur une chose, c'est que lorsque le mot, mais c'est pareil aussi pour Nitor, est appliqué au corps humain, le support privilégié du brillant, c'est les cheveux aussi. Hein. Il y a une espèce d'attention du regard là-dessus. Oui.
Toi se lève. Pardon. Une main.
Excusez-moi, c'est peut-être une question un petit peu absconde, mais moi je pensais par exemple les militaires romains, les officiers portaient des masques et des masques brillants que ne portaient pas les autres pour se distinguer. Est-ce que ça pourrait avoir un rapport avec le fait qu'ils sont plus splendides que les autres soldats et...
Alors le brillant joue un rôle dans la définition d'une bonne armée. C'est aussi valable pour des textes latins parlant des Romains que pour des textes grecs parlant du monde hellénique et aussi d'ailleurs des Romains. Je pense à Plutarque, par exemple. Une bonne armée, c'est une armée, j'allais dire, briquée. Tout doit briller et ça fait partie du pouvoir, de son pouvoir visuel, en quelque sorte. Quand vous avez en face de vous une armée parfaitement en ordre avec tout qui luit, presque comme le tonnerre, ça vous inspire de la terreur. Donc effectivement, il faut, ça compte dans la définition d'une bonne armée. Oui. Moi, il y a une expression que j'ai remarquée dans la poésie latine, c'est qu'on emploie très souvent une expression convenue, spicula tergere. Tergere, c'est frotter briquet. Hein. Ça peut être soit frotter, soit essuyer avec des serviettes. On nettoie les dards, les lances, les armures, on nettoie tout ce qui est bouclier. Et c'est en poésie, d'une manière un peu convenue aussi, quand on montre une armée qui s'affaire et qui veut le combat, qui veut absolument le combat, qu'est-ce qu'elle fait ? Eh bien, tous les soldats s'affairent tous, ils vont tous dans leur tente, et puis d'un seul geste, comme tout le monde, ils sont très actifs, on imagine une fourmilière, et ils sont tous en train de nettoyer leurs armes. C'est le geste qui correspond à l'armée qui veut combattre, qui est très motivée pour combattre, et qui va réussir, évidemment.
On va s'arrêter. Merci à tous et à chacun d'être venus aujourd'hui. Merci aux étudiants d'être venus nombreux, sans poser de questions, mais quand même, ils étaient là. Et puis, merci à tous les communicants d'être venus les uns après les autres. Ça fera, je crois, de belles choses. Enfin, j'en suis sûre qu'on va faire de belles choses. Et pour terminer, merci à Anne et au Centre Mendès France de nous avoir si bien accueillis, je crois, une fois de plus. C'est avec plaisir qu'on vient chez vous. Merci.